Bonjour à chacun d'entre vous. Nous avons été étonnés par ce que, de la façon dont Dieu se présente, ce qu'il est pour chacun de nous. Il est amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Voilà des choses que nous connaissons déjà depuis un certain temps, mais qui ont besoin d'être toujours nouvelles, pour que nous soyons toujours étonnés comme surpris, parce que ce sont des choses effectivement étonnantes. Et j'espère que je vais vous étonner encore davantage ce matin en vous parlant de ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'un chrétien? Si nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu, qui sommes-nous véritablement? Alors je vous invite à lire quelques versets dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, nous lirons les dix premiers versets. Et je crois que nous avons toujours besoin de relire l'Écriture avec des yeux neufs, avec un regard nouveau, avec toujours cette question, mais qu'est-ce que ça veut véritablement dire? Tellement nous sommes un peu habitués à ces paroles et nous avons tendance à passer dessus sans nous rendre compte de la valeur des mots et de ce que cela veut véritablement dire. Alors, Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Pour vous, il s'adresse l'apôtre Paul à des chrétiens, hein? Donc j'espère à nous tous, mais je ne vous connais pas tous dans le fond de votre cœur. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qui sommes-nous véritablement en tant que chrétiens? Eh bien, tout d'abord, un chrétien, c'est quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur. Un peu comme les disciples qui ont été appelés par le Seigneur. « Toi, suis-moi », dit Jésus à des personnes qu'ils rencontrent sur le chemin, et nous voyons que ces personnes abandonnent leur profession, leur ouvrage, et se mettent tout de suite à suivre le Seigneur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur et qui a reçu de lui la foi. La foi est un don accordé par Dieu. Alors, les versets qui parle de l'appel de Dieu pour nous, sont abondants dans l'Écriture. En général, elle commence par ces mots, « Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ ». Si vous prenez des notes, vous pouvez noter Romains 1:6, 1 Corinthiens 1:26, « Considérez, frères, comment vous avez été appelés ». Galates 1:6, toujours dans les premiers chapitres, au commencement des Épîtres, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. » Jude, petit épître, avant l'Apocalypse. Jude, frère de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés. Et encore un seul verset, 1 Pierre 5,10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ. Nous avons donc été appelés par le Seigneur et nous avons répondu à son appel. Comment ? Par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, avons-nous lu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors c'est quoi le don de Dieu ? La grâce de Dieu sans la foi ? La foi étant un peu notre don à nous ? Ou est-ce que la grâce et la foi sont tous les deux un don de Dieu ? Qu'est-ce qui ne vient pas de nous ? La grâce, ça c'est sûr. Elle vient de Dieu, uniquement de Dieu. Autrement, ce ne serait pas une grâce. Et l'apôtre insiste pour dire que ça ne peut pas être une œuvre de notre part. Ce ne serait plus une grâce. Mais la foi, notre consentement, notre adhésion, elle est aussi donnée par Dieu. Actes chapitre 18, verset 27. « Comme il voulait passer en Achaïe, l'apôtre Paul, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. » Enfin, je ne sais plus si c'est Paul, mais peu importe. « Quand il fut arrivé, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu. » Ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu. Philippiens 1, 29. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui. Tiens, le fait de croire, ça c'est ce qu'on appelle la foi, c'est aussi une grâce, mais aussi de souffrir par lui. Et puis surtout, je crois, en tout cas pour moi, c'est clair et net. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, qui ont reçu. Ce qu'on reçoit, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en soi. Et on le reçoit ici de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, ajoute l'apôtre Pierre. Ainsi, si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, c'est parce que Dieu use de sa grâce envers nous et parce qu'il a mis dans notre cœur la foi qui nous permet d'accepter ces choses et d'accepter sa grâce. Nous avons été attirés par le Seigneur, appelés, et la foi a germé dans notre cœur. Le Saint-Esprit a travaillé notre cœur, il l'a rendu ouvert à son action. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu en nous, ou plus précisément, l'œuvre du Saint-Esprit. Paul dit aux Galates, chapitre 3, verset 2, que c'est en écoutant avec foi la parole de Dieu qu'ils reçurent le Saint-Esprit, sans rien faire, si ce n'est en écoutant et en croyant, en reconnaissant que les paroles des apôtres étaient la parole de Dieu. Il y a donc une interaction entre le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence aux choses spirituelles et la foi qui permet au Saint-Esprit de s'installer dans notre cœur. Mais n'est-ce pas à nous de mettre notre foi en œuvre, de croire ? N'est-ce pas aussi notre responsabilité ? Eh bien oui, c'est peut-être un des paradoxes de l'Écriture, comme il y en a sans doute tant d'autres. Il y a d'une part le don de Dieu, la grâce de Dieu, et puis aussi notre propre responsabilité. Souvent, Jésus dit à ceux à qui il s'adresse, « Croyez, croyez dans ce que je vous dis. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et j'entends parfois des gens qui disent « Ah, mais si j'avais la foi comme vous, je serais heureux, ce serait bien, mais je ne peux pas. » Et en fait, on pourrait peut-être même penser que ce que je suis en train de dire, place la foi sur certaines personnes et pas sur d'autres. Mais Jésus nous dit qu'il suffit de demander le Saint-Esprit pour le recevoir. Luc chapitre 11, verset 13. « Si donc méchant comme vous l'êtes, » Jésus ne se faisait pas d'illusions sur le cœur de l'homme, « vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Il suffit de le demander. Bon, c'est peut-être pas si simple que cela. C'est peut-être pas si rapide que cela non plus. Mais demandons si nous n'avons pas la foi. Et le Seigneur honorera notre prière. Hébreux chapitre 11, verset 6. « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire que Dieu récompense, Dieu accorde la réponse à ceux qui le cherchent. Revenons à Éphésiens 2. « Vous étiez morts, dit Paul. » « Spirituellement mort », traduit la Bible en français courant. Comment un mort peut-il réagir à la grâce de Dieu? Si ce n'est en étant redevenu vivant par la seule grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Un mort ne peut pas avoir la foi. Nous sommes ici dans des choses spirituelles, bien sûr. Mais la foi en fait partie. La grâce de Dieu est totale. Elle n'a besoin d'aucune aide humaine pour se manifester en nous. Dans son roman « Journal d'un curé de campagne », Bernanos termine son livre par ces mots « Tout est grâce ». Tout est grâce. Tout ce que nous recevons de Dieu est grâce. La grâce de Jésus-Christ nous propulse dans la victoire de Jésus-Christ. Comme entraînés dans son sillage, nous qui étions morts par nos fautes. Et là, il faut bien saisir le sens de ce mot « mort ». Il veut véritablement dire « mort ». Alors, on pourrait dire « mais ce n'est pas vrai, ceux qui nous entourent ne sont pas morts, ils sont bien vivants, ils font des choses ». Oui, bien sûr, avant d'être chrétien, nous aussi. Mais qu'est-ce que Paul dit? Vous étiez morts, spirituellement parlant. Vous étiez morts pour Dieu. Vous étiez considérés comme morts pour sa vie, la vie éternelle, la vie spirituelle. Vous étiez morts. Et pour sortir de la mort, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la résurrection, c'est devenir vivant, redevenir vivant. Et c'est Dieu qui a opéré cette résurrection en nous. Les morts ne peuvent pas ressusciter d'eux-mêmes. C'est l'action de Dieu. Et il nous a rendus à la vie avec le Christ. Verset 5. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous avons de la peine à comprendre ces paroles, tellement elles nous dépassent. Soit que nous les appliquons à un domaine futur, ah oui, oui, mais ça c'est pour après la mort, oui, nous ressusciterons. Ben non, Paul ne dit pas ça, il dit que maintenant nous sommes des ressuscités. Nous étions morts et maintenant nous sommes des ressuscités. Ou alors nous les minimisons. Ça n'a pas beaucoup de sens pour nous, parce que nous voyons bien que nous fonctionnons un peu comme tout le monde, toujours avec nos péchés, avec le monde où règne la mort. Mais c'est là la réalité du salut. Vous étiez mort et maintenant vous êtes vivant, c'est-à-dire que vous êtes passé par la résurrection. Nous avons de la peine aussi à réaliser qu'avant notre conversion, nous étions morts. Et nous avons de la peine à réaliser que nous participons maintenant à la résurrection du Seigneur et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, » ce n'est pas quand vous serez ressuscité dans la vie après la mort. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Alors, c'est quoi les choses d'en haut? Ce sont les trésors qui sont en Christ. C'est ce qui appartient à la vie de Dieu, à la vie de Christ. C'est ce qui plaît au Seigneur. C'est ce qui tient compte de sa volonté, de son royaume. Et à l'opposé, les choses d'en bas, ce n'est pas les choses physiques, matérielles, culturelles, sociales, comme si nous devions les négliger, mais c'est l'usage négatif qu'on en fait. C'est l'idolâtrie. C'est croire que la vraie vie se trouve uniquement dans les choses matérielles ou sociales. Non, la vraie vie se trouve en Dieu. Le reste, pour Dieu, c'est considéré comme mort. Paul écrira à Timothée que tout ce qui a été créé est bon et qu'on doit en user librement dans un esprit de reconnaissance. Il ne s'agit donc pas de s'enfermer dans un monastère, mais il s'agit de vivre au milieu des hommes, mais d'une façon différente. Je vous raconte une petite histoire pour réveiller peut-être ceux qui dorment. Au pied des pins qui bordent la plage, une petite chenille s'est égarée en quittant la longue caravane de ses compagnes. Un frémissement dans l'air, elle se blottit sous une écorce et voit soudain surgir un papillon aux ailes multicolores. « Tu as eu peur, » dit le papillon. « Oh oui, » dit la chenille, « regarde comme je suis faite. Je traîne par terre. N'importe qui peut m'écraser. Alors que toi, tu voles de fleur en fleur et tu peux aller au plus haut sommet des arbres. Je vais te dire un secret, » dit le papillon. « Il y a longtemps, longtemps, j'étais comme toi. Un jour, tu verras, tu vas te transformer. Tu deviendras chrysalide et au matin d'un printemps, tu t'éveilleras. Et comme moi, tu t'envoleras avec des ailes de toutes couleurs à faire pâlir de jalousie un arc-en-ciel. » Le drame de certains chrétiens, c'est qu'ils croient qu'ils deviendront papillons, à leur mort seulement, et qu'ils sont toujours chenilles au lieu d'être dès maintenant des papillons. Si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est que déjà nous participons à sa victoire sur la mort. Si nous sommes avec lui dans les lieux célestes, c'est que déjà nous participons avec lui à sa victoire sur les forces spirituelles. L'apôtre Pierre écrit, 1 Pierre 2, 9, « Vous, au contraire de tous les autres hommes, vous êtes une race élue, choisie, hein, vous avez été appelés. » Un sacerdoce royal, et la Bible du Semeur traduit, et j'aime bien, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et la Bible du Semeur dit pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Voilà notre condition de chrétien, notre état de chrétien. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait cela pour nous? Pourquoi? Quatre raisons sont exprimées dans le texte que nous avons lu. Au verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu à notre égard. Dieu a usé de miséricorde. Deuxième partie du verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Par amour, tout simplement, par amour. Voilà, Dieu nous aime, Dieu nous a aimés. Verset 7, afin de montrer la richesse surabondante de sa grâce. Et encore verset 7, par sa bonté envers nous. Miséricorde, grand amour, grâce, bonté. Nous étions morts à cause de nos fautes. Paul ne dit pas, vous étiez morts à cause du péché d'Adam. Il dit, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Nous ne méritions rien si ce n'est le jugement de Dieu. Parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint et Dieu est juste. Mais à cause de son amour, de sa bonté, de sa grâce, il nous fait participer à sa vie. C'est ce qu'on appelle le salut. Partout dans le monde, on connaît le célèbre tableau La Joconde. Du moins, je pense. À mon avis, ça doit être le tableau le plus célèbre du monde. Mais bon, je ne vais pas discuter là-dessus. C'est pas important. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je l'ai déjà vu au Louvre, c'est un tout petit tableau. Et lorsque je l'ai vu au Louvre, il était tout seul au milieu d'un mur vide, hein, alors qu'ailleurs, il y a plein de tableaux. Un petit tableau, et quand je l'ai vu, il y avait même des gens enfin, qui m'empêchaient enfin, de m'approcher, parce qu'il y a toujours du monde pour voir ce célèbre tableau, La Joconde. Et je suis sûr que je viens de nommer La Joconde et vous l'avez maintenant en tête. Hein, vous voyez de quoi je parle. Vous voyez, c'est un tableau très célèbre. Tout le monde ici l'a au moins déjà vu quelque part en image, hein, si ce n'est au musée du Louvre. Mais personne ne connaît La Joconde. Personne ne sait qui a servi de modèle à qui. Léonard de Vinci. Tout le monde connaît l'auteur de ce tableau. Mais personne sait qui était véritablement cette Joconde. En revanche, tout le monde, et même vous, tout le monde sait que ce tableau a été peint par Léonard de Vinci. Eh bien, je crois que c'est pareil pour nous. Toute la gloire revient à Dieu. Nous n'avons aucun sujet de gloire. Et ce que dit Paul, je crois, dans ce texte, c'est que au-delà de notre personne, c'est le Christ, c'est le Seigneur que les gens devraient voir. C'est eux qu'ils devraient discerner et que, d'une certaine façon, nous avons tout reçu de Dieu. Nous n'avons pas à nous mettre en avant en quoi que ce soit. Verset 10, encore un de ces versets forts de ce texte. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Même nos œuvres, même ce que nous faisons, a été créé d'avance par Dieu afin que nous les pratiquions. Et on pourrait y ajouter ce que Paul ajoute à la fin du verset 9, afin que personne ne se glorifie. Le grand évangéliste Billy Graham, et c'était un grand évangéliste, il est encore en vie, hein, il a 91 ans, hein, mais il est trop âgé ou trop malade pour continuer son ministère. Mais personne comme lui a réuni des milliers de personnes dans des stades pour venir l'écouter, pour venir écouter la prédication, la parole de Dieu. Hein. Je ne sais pas combien de personnes dans le monde il a parlé au cours de son ministère, des millions. Il a intitulé son autobiographie « Tel que je suis ». En référence à ce cantique que nous avons chanté tout à l'heure, et qui était toujours chanté à la fin de son message, dans ces grandes campagnes d'évangélisation qui réunissaient chaque soir des milliers de personnes, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Eh bien, je crois que Billy Graham se rend compte ou s'est rendu compte que s'il avait pu être un homme important dans le monde, connu lui aussi, peut-être comme Léonard de Vinci, à travers le monde entier, c'était uniquement par la grâce de Dieu. Et si Dieu lui avait donné, ou s'il avait reçu un certain succès, et je connais bien des personnes qui se sont converties dans des campagnes Billy Graham, c'est uniquement par la grâce de Dieu et par le don que Dieu lui avait donné. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et Calvin, dans son commentaire de ce verset 10, écrit ceci, « C'est pourquoi tout ce qui est bien en nous est une œuvre surnaturelle de Dieu. Tout ce qui est bien en nous est sa propre création. Paul dit « Nous sommes son ouvrage ». J'aime bien ce mot « ouvrage ». Il me fait penser à ceux qui tricotent, ceux qui brodent, ceux qui fabriquent quelque chose. Et en fait, il y a un seul endroit, une seule fois, où ce mot se retrouve dans le Nouveau Testament. Donc, il se trouve ici, hein, le mot « ouvrage », là, Éphésiens 2:10. Il se trouve aussi dans Romains chapitre 1, verset 20, et je vous le lis. L'apôtre Paul écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » C'est quoi là les ouvrages? C'est la nature, c'est la création dans sa grandeur, dans sa beauté. C'est ça, l'ouvrage en fait c'est la création de Dieu. Et cette création, elle vient d'où? Ben, elle vient de Dieu uniquement. Dieu a créé à partir de rien. Nous, nous créons à partir de quelque chose. Hein. Quand vous, mes sœurs, vous faites un tricot, ou mes frères aussi, ça peut arriver, mais en général, c'est les sœurs. C'est à partir de quelque chose, à partir de la laine. Et la laine, c'est à partir de moutons, d'animaux. Voilà. C'est pas à partir de rien. Dieu, lui, quand il a créé le monde, il n'y avait rien. Et puis, d'un seul coup, il y avait le monde. Voilà. Hein? Par sa parole, il a créé le monde. C'est une création divine, le monde. Eh bien, de la même façon ici, ce mot est utilisé au verset 10. Nous sommes son ouvrage. Et ce n'est pas étonnant si nous étions morts. Morts. Dieu nous a donné la vie et il a créé quelque chose avec ce qui était mort et qui maintenant est vivant. Il s'agit aussi d'une création divine, d'une création de Dieu. Le salut, c'est donc le passage d'une mort à la vie, c'est-à-dire d'une non-vie à la vie, une résurrection et une création, comme la création de Dieu qui est l'univers. Ainsi, Dieu agit pleinement en nous pour que nous ne nous glorifions pas, que personne ne puisse dire « Ah, qu'est-ce que j'ai bien prêché ce matin !» Que personne ne puisse dire « Ouais, moi je suis doué pour la musique, je ne suis pas comme telle personne qui chante faux. » Personne ne puisse dire « Ben oui, moi je suis intelligent, hein, j'ai des diplômes. Hein. » Tout est grâce, tout est grâce, tout vient de Dieu, pour que toute la gloire lui soit rendue et que ce soit lui que nous servions. Et je crois que quand nous serons dans le ciel, personne n'aura à se glorifier de ce qu'il aura fait sur la terre, même pas un Billy Graham, mais tous nous rendrons gloire à Dieu pour sa grâce, pour les dons qu'il aura donnés, pour ce qu'il aura fait à travers nous, parce que c'est à lui que revient toute la gloire.